Voilà, nous allons commencer avec un quart d'heure de retard qui n'est en fait que 5 minutes de retard. On va dire que c'est le quart d'heure Poitevin qui ne dure que 5 minutes. Alors pour cette cinquième et dernière séance du cycle « Les nouveaux défis sociaux », consacrée cette année aux villes face aux nouvelles formes d'inégalité. Je ne rappellerai pas les différentes conférences, les précédentes conférences. Je signalerai simplement qu'elles sont pour les trois premières d'entre elles disponibles sous forme audio et puis sous forme d'une synthèse sur le site de l'espace Mendes France, qui est partenaire de ce cycle, lancé à l'initiative de la CAP, de la communauté d'agglomération de Poitiers, et du conseil de développement, représenté ici par son président, James Renaud, que j'inviterai à intervenir à la toute fin pour nous dire dans quelle mesure le conseil pourra se nourrir de ce qui va être dit tout à l'heure, et puis représenté aussi par Virginie Auffroy, qui nous accompagne dans la préparation de ce cycle, qu'elle en soit remerciée, tout comme Anne Bonnefoy de l'espace Mendes France. Alors, je rappellerai simplement le principe de ce cycle qui était de décliner les différentes formes d'inégalité en s'intéressant y compris à des inégalités inattendues auxquelles on ne prête pas forcément beaucoup d'attention. Je pense aux inégalités face aux déplacements, face aux mobilités, souvenez-vous, hein, l'intervention d'Éric Le Breton. Et l'idée était aussi de montrer comment des acteurs locaux, des territoires, des communes, des communautés d'agglomération pouvaient se saisir de questions qui touchaient à des enjeux de société. Et je pense qu'on a eu une belle illustration de cette ambition à travers la précédente intervention, conférence consacrée à la précarité énergétique, où, au cours de laquelle Lucille Mettetal, donc, était intervenue sur ce thème, nous avait ouvert une piste hein, sur ce que pouvaient faire les collectivités locales, un conseil de développement, pour combler le vide entre l'État, qui définit la législation, le système fiscal, en vue d'inciter à l'utilisation de telle ou telle énergie, et puis les fournisseurs et les producteurs d'équipements qui ne sont pas forcément à même de fournir des conseils adaptés à des ménages en situation de précarité énergétique. Alors, cette idée d'aborder des inégalités, de les décliner et de voir comment les acteurs locaux peuvent la traiter et apporter des solutions, eh bien, on va le voir de nouveau ce soir à travers la santé. Or, un thème d'actualité permanente, mais aujourd'hui plus que jamais, puisque j'ai vu passer les résultats des études de l'INSEE qui montrent la persistance d'inégalités face à l'espérance de vie, sauf que entre les catégories socio-professionnelles, sauf que ce type d'étude, aussi intéressante soit-elle, ne rend pas compte de l'effet territorial sur ces inégalités, et c'est précisément ce qu'on va voir ce soir avec une spécialiste, Zoé Vaillant, que je remercie mille fois parce que je sais que son agenda est particulièrement chargé et elle a accepté vraiment de venir jusqu'à Poitiers, mais aussi de nous préparer une conférence dans l'optique du cycle. Alors je précise simplement, Zoé Vaillant, que vous êtes géographe, que vous êtes membre du laboratoire Espace Santé Territoire. Donc l'intitulé dit bien comment l'ambition de vos recherches, c'est de traiter de la question de la santé et des inégalités du point de vue des territoires. Vous êtes spécialiste des questions de santé urbaine en France et dans des pays du Sud. Et vous avez participé à de nombreuses publications dont on dira un mot, si vous le voulez bien, à l'issue de votre intervention. Je signale simplement l'Atlas de la santé l'Atlas mondial de la santé auquel vous avez participé aux côtés de Gérard Salem, auquel il faut rendre hommage. C'est l'un des pionniers en France hein, de la géographie de la santé, et il a publié un certain nombre de choses dont on dira quelques mots puisque vous y avez vous-même participé. Mais sans plus tarder, je vous laisse la parole pour une intervention de 40 à 45 minutes pour pouvoir ensuite recueillir le plus de questions, d'interrogations de la salle. Merci par avance, Zoé Vaillant.
Merci. Merci beaucoup à l'Espace Mendès France et à la ville de Poitiers aussi d'avoir invité l'équipe du laboratoire Espace Santé Territoire, puisque là c'est moi qui présente, mais je précise que c'est pas mon travail personnel qu'à moi, c'est un travail d'équipe au long cours, et donc voilà, je parle au nom d'autres personnes. Donc en géographe, aujourd'hui je vais vous parler des inégalités territoriales de santé en France, et on va essayer d'aborder le problème de la mesure des inégalités, donc de l'observation, comment observer ces inégalités, et voir ensuite comment ça peut se traduire en politique de redressement des inégalités, éventuellement. D'une manière générale, dans le monde, pas qu'en France, partout, on a une augmentation des espérances de vie, y compris dans les pays dits du Sud. C'est un phénomène généralisé. Et on peut dire que l'espérance de vie ou même la mortalité est un indicateur synthétique de la santé d'une population et plus généralement du niveau de développement d'une société. Donc ce sont la santé, l'espérance de vie, la mortalité sont des indicateurs très crus, très sensibles au niveau de développement du niveau de développement d'une société. Mais même si on a une augmentation généralisée des espérances de vie, il n'empêche que le corollaire de cette augmentation des espérances de vie, c'est le creusement des écarts sociaux, mais aussi spatiaux, et j'insiste sur le mot spatial, des écarts sociaux et spatiaux des espérances de vie, notamment en France. Et cette spatialisation, en tant que géographe, pour nous, elle est source de sens, c'est-à-dire les disparités spatiales. Quand on s'intéresse aux déterminants de la santé et des inégalités de santé, la spatialisation fait sens, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et d'un autre côté, à un niveau global, on sait très bien qu'il y a une très forte corrélation entre la pauvreté et le niveau de santé. À un niveau mondial, on voit bien le gradient entre les pays du Sud, pays émergents, pays dits développés, moins on est pauvre, plus... la santé des populations, meilleure est la santé des populations. Mais quand on regarde les choses beaucoup plus finement, donc quand on change d'échelle à un niveau plus fin, par exemple communal ou même infracommunal, d'un quartier à l'autre dans une ville, on s'aperçoit que cette association entre pauvreté et santé n'est pas aussi directe, n'est pas systématique, et donc les déterminants de la santé vont bien au-delà de la simple pauvreté, sont multiples et ce sont des combinaisons locales spécifiques de différentes dimensions qui sont des déterminants. Donc aujourd'hui, dans une première partie, je vais essayer de vous dresser un portrait des inégalités territoriales de santé en France, puisqu'on dit que la France c'est le meilleur système de soins au monde, et pourtant en Europe de l'Ouest, on est le pays où on a les plus gros écarts sociaux et spatiaux. Donc ça pose des questions quand même sur cette idée du meilleur système de soins. Et je voudrais essayer de vous montrer dans la première partie comment la mortalité et la morbidité c'est la santé des gens vivants, enfin les maladies des gens vivants, par opposition à la mortalité. Donc comment cette mortalité et cette morbidité se déplacent dans l'espace et dans le temps, et comment ce déplacement de la mortalité et de la morbidité en fait révèle les structures et les mutations du territoire et de la société en général. Et puis dans un deuxième temps, on passera à une réflexion sur comment passer de l'observation à l'action, donc comment décider en fait et cibler des actions, à quel endroit, comment, en vertu de quels principes, etc. Ce qui, aujourd'hui, est assez brûlant, puisque de plus en plus, au niveau local, on a une émergence des préoccupations de santé publique dans les villes. Donc, pour commencer, voici quatre cartes qui présentent les espérances de vie sur une longue période, puisque on commence en 1801, donc début du 19e siècle, et on finit en 1970. Plus c'est vert foncé, moins la situation est bonne, plus c'est vert clair, meilleure est la situation. Donc les espérances de vie sont plus faibles, d'autant plus faibles que la couleur est foncée. Et ce que l'on observe, c'est que sur ces 170 années, on a d'importants changements dans la répartition. Alors évidemment, l'espérance de vie, elle a augmenté globalement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les écarts et les changements de répartition spatiale. Et on voit qu'en début de période, les zones les plus défavorisées sont la Bretagne, le littoral sud-ouest, le centre de la France, et puis la région PACA et Rhône-Alpes. Et on voit qu'en fin de période, on a eu une inversion, puisque au début, le nord de la France était globalement en situation favorable, et à la fin de la période, on a un croissant qui va de la Bretagne au nord et à l'est, comme ça, de mauvaises espérances de vie. Donc l'idée là, c'est d'illustrer le fait que la mortalité n'est pas inerte, c'est pas une donnée à tout jamais, et que, au contraire, ça bouge beaucoup. Et que ces mutations reflètent les changements de société, c'est-à-dire le 19e siècle, c'est quoi ? C'est l'industrialisation et l'urbanisation. Et ce que l'on voit comme dégradation de la situation du nord, de toute cette partie-là, nord-nord-est, c'est tout simplement les conditions de vie ouvrières, globalement, et la désindustrialisation qui a commencé dans les années 70, donc une dégradation sociale, économique du tissu local. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme du milieu climatique, géologique, contrairement à des choses qu'on entend assez souvent aujourd'hui. L'environnement au sens large, le climat, c'est ça qui fait qu'on est en mauvaise santé. Bon, peut-être un petit peu, mais certainement à la marge. Donc, maintenant, approfondissons le propos sur une période plus récente. Alors là, l'indicateur, il est un peu différent. C'est plus les espérances de vie, c'est des ratios standardisés de mortalité. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais en fait, c'est simple. C'est, vous voyez en blanc, ici, c'est la moyenne française de la mortalité à cette période. Et plus on monte dans le rouge, plus la situation est mauvaise, c'est-à-dire que les entités qui sont orangées rouges sont en surmortalité par rapport à cette moyenne française, et plus on est bleu foncé, plus on est en situation favorable, plus on est en sous-mortalité par rapport à la moyenne française. Et le mot standardisé, ça veut dire sans standardiser sur l'âge, parce que, évidemment, dans une zone où il y a beaucoup de personnes âgées, bah forcément, il y a plus de décès que dans une zone où il y a des jeunes. Donc, pour neutraliser cet effet de la structure par âge de la population dans un endroit donné, pour rendre comparables deux entités spatiales, on applique une technique de standardisation qui permet de comparer les entités spatiales, toutes choses égales, par ailleurs. Oui, mais globalement, la région est pas trop mal. Hein. Enfin, il y a des dégradations, mais il y a des choses... C'est pas les plus mal lotis, hein, les poids de vin. Là, je vais vous passer rapidement, très rapidement, quatre cartes pour vous montrer les mutations qu'il y a eu sur 30 ans. Et après, on regardera chaque période. Mais vous allez voir que sur 30 ans, on a eu des changements dans la répartition spatiale de la mortalité sans commune mesure avec ce qu'on a eu juste avant, ce que je vous ai montré, en 170 ans. Donc pour vous dire à quel point la mortalité, c'est quelque chose de plastique qui reflète les mutations du territoire, vous allez vous en rendre compte vous-même. Donc première période, 73-77, donc vous regardez juste les couleurs, vous allez voir comment ça bouge. Deuxième période, 80-84. Troisième période, 88-92. Cinquième période, 95-99. Donc vous avez vu globalement que ça bougeait comme ça. Donc on va regarder plus en détail chaque période. Donc sur la première période, 73-77, on observe que la sous-mortalité, donc en bleu, les bonnes situations, forment une espèce de L, comme ça. Donc l'ouest globalement et le sud, le pourtour méditerranéen, plutôt favorisé. Et puis la surmortalité, c'est la Bretagne, le nord de la France et l'est jusqu'à l'Alsace. Donc ça forme une espèce de chapeau. Éternué, pardon. Un croissant de surmortalité. Et puis une tache de surmortalité dans le centre, dans le massif central. On voit que l'Île-de-France est plutôt une espèce de mosaïque, de la même façon que les deux Normandies sont aussi un patchwork où, en fait, on a une proximité spatiale de zones très contrastées du point de vue de la mortalité. Après, on regarde en deuxième période, qu'est-ce qu'on voit ? Que les structures en place s'affirment, mais cette fois, notre L de sous-mortalité n'est plus un L, mais un U, comme ça, à l'intérieur duquel le centre, le massif central, l'Auvergne, reste en surmortalité avec qui fait un peu de tache d'huile, qui tend à s'accroître. Et pareil, toujours le même chapeau du croissant nord et ouest de surmortalité. On voit qu'en Normandie, dans les deux Normandies, commence à s'affirmer, mais timidement, une certaine structuration spatiale un peu différente, où là, vous voyez, dans cette Normandie-là, on a la partie nord qui est plus dans le rouge en surmortalité, qui correspond plus aux zones industrielles, aux portuaires, on va dire, et puis la partie sud qui commence à être plus bleue. Et de même, dans la Normandie, dans la haute Normandie, on a l'ouest, plus le Havre, etc., industrialo-portuaire toujours, qui est en surmortalité, et puis l'est, plutôt en sous-mortalité. Et l'Île-de-France, toujours ce même patchwork, mais avec quand même l'opposition est-ouest qu'on connaît bien. Ensuite, on passe à 88-92, et là, on voit un durcissement, en fait, des structures établies avant, avec cette fois-ci une affirmation dans le centre de surmortalité, hein, qui font vraiment tache d'huile. Et là, les géographes reconnaissent la fameuse diagonale du vide, c'est-à-dire la zone où les densités de peuplement sont les plus faibles d'Europe de l'Ouest. Et c'est toute la zone qui est en déprise démographique, marquée par vraiment une sorte d'abandon, fermeture des écoles, fermeture des postes, etc., dans les petites villes et les villages. On observe un phénomène intéressant sur la Bretagne, une opposition forte entre des villes comme Rennes en sous-mortalité et Vannes, qui sont des villes universitaires qui ont mis le paquet en fait sur le développement de la vie universitaire, le tertiaire, la scolarisation. On a des taux de bacheliers extrêmement élevés et qui s'opposent très nettement au reste de la Bretagne bretonnante, le centre et le Finistère littoral, donc des zones à la fois industrielles et portuaires et agricoles. Vous remarquez que notre début de structuration spatiale qu'on avait vu en Normandie s'affirme, où là on a vraiment une ligne nord-sud. Et puis là, ça a un peu changé, c'est que maintenant, autour de Rouen, pôle tertiaire qui profite de sa proximité avec Paris, on a une sous-mortalité, et par contre, tout autour, ça diffuse, ça se dégrade, plus on s'éloigne et plus ça se dégrade, et plus on arrive vers les zones portuaires, plus ça se dégrade. Pareil, pas de changement sur le nord, c'est toujours la surmortalité. Et vous observez que quand même l'Île-de-France, dans ses franges, sa périphérie, la surmortalité s'est nettement affirmée. Et on arrive à des niveaux de contraste dans la région aussi forts que les contrastes qu'il y a entre le nord et le sud de la France. Et l'Île-de-France, à ce titre, peut être vue un peu comme une loupe sur les phénomènes français. Et puis une autre chose très importante qui apparaît dans cette carte, c'est, vous voyez dans l'espace de sous-mortalité bleue, pratiquement tous les départements ont un centre très bleu, et puis autour une espèce de couronne bleue plus claire. En fait, dans l'hypercentre, c'est-à-dire en général dans la préfecture, on a des meilleures situations, et puis plus on s'en éloigne, plus on a une dégradation des situations relatives, puisqu'on reste en sous-mortalité. Mais n'empêche qu'il y a ce phénomène centre-périphérie qui tend à s'affirmer. Et on remarque aussi dans l'arrière-pays du pourtour méditerranéen une relative dégradation qui est assez nouvelle. Et quand on voit en dernière période cette histoire de centre-périphérie, même dans les zones de sous-mortalité, elle s'est nettement affirmée et donc les contrastes sont devenus de plus en plus forts, où vous voyez que dans les périphéries des départements, on a vraiment là une surmortalité qui s'affirme versus une sous-mortalité dans les centres, les hypercentres. En Bretagne, on a toujours la même opposition entre même la baie de Saint-Brieuc aussi, qui est résidentialisation, beaucoup de Parisiens qui vont s'installer là-bas. Donc, on a vraiment un contraste, des contrastes globalement qui s'affirment. Vous remarquerez aussi qu'en Picardie, on a le nord de la Picardie, qui est la Picardie picarde, où on parlait picard, qui s'apparente plus en fait au nord. Et puis le sud, où on parlait le François, qui s'apparente plus aux situations pas très bonnes, mais un peu meilleures, de l'Île-de-France. Et donc, on pourrait très bien dire que globalement, ce qui s'est passé dans cette période, c'est une augmentation des tendances ségrégatives, c'est-à-dire une spécialisation accrue des zones en plus ou en moins. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise la France, on pourrait dire. Aujourd'hui, pas que sur les questions de santé. Et quand on voit l'Île-de-France, comment les oppositions se sont durcies, en 30 ans, on a fait ça quand même. Donc, tout ça, ça nous pousse à nous interroger sur les politiques urbaines qui sont menées, les politiques d'aménagement. Et la santé, c'est pas que le soin, bien évidemment. Le soin, c'est marginal dans la santé. Ça interroge les politiques d'accès à la culture, aux loisirs, aux transports, cadre de vie, logement, etc. Tout ce qui fait le quotidien. La scolarisation, n'en parlons pas. Donc voilà, on est dans une situation de creusement des écarts. Alors, de quoi sont faites ces inégalités de mortalité, puisque là on était sur la mortalité? Quelles sont les composantes sanitaires de ces inégalités? Donc on a construit une typologie, vous voyez ici toutes les causes de décès, donc ça va des tumeurs aux accidents de la circulation, bref, toutes les causes, et on a regroupé les entités spatiales ensemble quand elles se ressemblent du point de vue de la mortalité pour toutes les pathologies. Donc ça, c'est la moyenne française. Là, il y a une ligne, si vous voulez, une moyenne française. Et on est les différents types, 1, 2, 3, 4, qui ont une couleur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, situent le niveau par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, par exemple, le niveau 1, le vert, c'est très favorisé. C'est globalement, quelle que soit la pathologie, on est en très, très nette sous-mortalité par rapport à la moyenne française. Et l'opposé, c'est le marron, où on est, pour toutes les pathologies quasiment, en surmortalité. Et donc, à l'intérieur, les différents profils correspondent à un gradient progressif. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve notre géographie qu'on avait vue avant, hein, de la mortalité, sans surprise. Comme ça, tout ce qui est vert, c'est plus favorisé, globalement. Et puis, tout ce qui est dans les oranges et marrons est plus défavorisé. Mais ce qu'apporte cette carte en plus, c'est qu'on voit en noir les limites administratives régionales. Et on se rend compte que, du point de vue du comportement de la mortalité, les régions administratives ne correspondent pas aux limites des régions sanitaires, on pourrait dire des états de santé. On voit bien ici que Rennes, finalement, dans sa situation, se rapproche plus de la région Pays de Loire. On voit que cette partie des Charentes, du Poitou-Charente, se rapproche plus des situations du Pays de la Loire, et alors qu'au sud, effectivement, tout à l'heure, enfin, on a entendu parler de ça dans la conférence où j'étais avant, cette zone est plus défavorisée, rurale, en déprise, qui se rapproche plus de ce côté-là. On observe là, sur notre Picardie, la même scission entre le nord de la Picardie qui se rattache au nord et puis le sud de la Picardie qui se rattache plus aux franges de l'Île-de-France. Bref, tout ça pour dire quoi? Et on remarque aussi que l'Île-de-France, encore, c'est le patchwork. On a toutes les situations de France rassemblées dans un territoire tout petit. Donc ça montre bien que ça renvoie à des manières de se comporter, des manières de manger, des manières de boire, des manières de soigner, de se faire soigner, de consulter, de pas consulter, tout un faisceau de déterminants qui sont des héritages à la fois historiques, culturels, sociaux, économiques. Pour continuer à illustrer cette idée de la dimension culturelle du territoire qui joue, qui façonne des comportements de santé, je voulais juste vous montrer rapidement cette carte qui représente le taux de femmes qui ont allaité leurs enfants à l'échelle des zones d'emploi. Donc il s'agit de la cohorte E3N. C'est que des femmes affiliées à la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Donc c'est que des femmes d'un niveau minimum Bac plus 3. Donc on peut parce qu'on sait que l'allaitement, c'est très lié au niveau socioculturel. Donc là, on peut dire qu'on a neutralisé cet effet et que globalement, à niveau socioculturel égal, on a quand même une géographie très spécifique. Ce qui veut dire que ce comportement de santé, il n'est pas que le fait de l'appartenance socioculturelle, mais de mode de vie lié à l'endroit où on vit. On voit très nettement le gradient ouest-est. C'est-à-dire plus on va vers l'est, plus on allaite son enfant. Nous, on n'a pas tellement plus d'explications que ça, mais c'est un constat qui tend à montrer qu'il y a une dimension culturelle liée au territoire dans les comportements de santé. Donc pour continuer sur le décryptage des inégalités de santé, on entend aujourd'hui dire largement dans les approches environnementalistes que la ville, c'est mal. La ville, c'est l'endroit où il y a la pollution, le stress, l'anonymat, l'indifférence, alors que la campagne, c'est l'air pur et l'authenticité des rapports humains, qui n'ont pas oublié la solidarité, eux. Eh bien, si on objective un petit peu des données, là, je vous montre les espérances de vie entre hommes et femmes par taille de ville. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que vous prenez des communes rurales jusqu'aux plus grosses communes de plus de 200 000 habitants ou Paris, vous voyez que ça tourne autour de 82-83, 74-75 pour les hommes. Donc, il n'y a pas de différence significative. Donc déjà, on va faire la peau à cette idée, quoi. Et puis, si on regarde... ensuite, si on ventile la même donnée, mais par l'espace... On observe une chose intéressante, c'est que, alors là, il y a deux informations sur chaque carte, c'est la grosseur du rond, c'est la taille de la ville, et donc on a pris que les unités urbaines de plus de 20 000 habitants pour que ce soit facile à lire, parce que sinon il y a 36 000 communes, on ne peut pas lire. Donc on a la grosseur de la ville, et puis la couleur, c'est l'espérance de vie, le niveau. Et on se rend compte qu'une grande ville du nord de la France ressemble moins à une grande ville du sud de la France, comme Lille versus Toulouse, qu'une grande ville du nord de la France ne ressemble plus à une petite ville du nord de la France, du point de vue de l'espérance de vie. Donc il y a un effet appartenance régionale. Donc là encore, je reviens à mon propos en disant tout ce qu'il y a derrière une espérance de vie, qui est une mesure synthétique, tous les comportements liés à la santé, sont aussi le fruit d'un façonnement régional, culturel, lié au territoire et à son histoire. Et à ces mutations. Et que c'est pareil pour les hommes ou pour les femmes. Donc là, on parlait jusqu'ici de la mortalité, mais on peut. Et la mortalité, le problème, c'est que ça renvoie à 30 ans d'exposition passée. Donc la photo qu'on a au présent renvoie pas mal au passé, puisqu'on meurt à un moment, mais on meurt d'avoir été exposé pendant X années à des choses. Donc prenons maintenant les gens vivants. Et des indicateurs de santé vivants. Donc là, c'est quand il y avait avant les 3 jours pour les militaires, pour les jeunes, les conscrits, il y avait des bases de données intéressantes à exploiter sur leur santé, notamment sur le surpoids et l'obésité. Et qu'est-ce qu'on voit là? On a ventilé les données par type d'espace, rural et de plus en plus urbain. Et on s'aperçoit, contre toute attente, ce n'est pas en milieu rural qu'on a le moins de surpoids. Au contraire, c'est en milieu rural qu'on a le plus de surpoids. Et plus la ville est grosse, moins le surpoids est fort. Toutefois, on observe qu'il y a une augmentation généralisée qui est liée de toute façon aux mutations de la société en général, sur l'urbanisation et tous les changements de comportement alimentaires qui sont liés à ça, plus d'alimentation fortement calorifique, des protéines, beaucoup de la junk food, etc. Et puis, changement de rythme alimentaire, déstructuration de l'organisation des repas à cause de l'organisation du travail, des transports, beaucoup de familles monoparentales, le développement de la télé. Bref, beaucoup de choses ont changé dans les façons de s'alimenter. Et puis, toutes les habitudes d'activité physique. Enfin, on est dans des vies plus sédentaires, notamment avec la voiture et puis l'aménagement urbain voilà, de proximité. Et donc, effectivement, c'est dans les plus grandes villes, là, le violet, là, qu'on observe les plus grosses augmentations. On est toujours en dessous du niveau rural, mais en fait, c'est là que ça bouge le plus. Et vous voyez que les écarts, avec le temps, tendent à se réduire. Donc, ces logiques-là, elles sont partagées dans les différents types d'espaces en France. Et quand on regarde non plus les taux, les prévalences de surpoids, mais les taux d'accroissement du surpoids en 10 ans, entre 87 et 96, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire, les petites villes en bleu, les toutes petites, celles qui sont en bleu où il y a les moins fortes augmentations, sont des toutes petites villes, conformément à ce qu'on vient de dire. Mais on observe dans les villes où il y a la plus forte augmentation, c'est-à-dire en plus jaune foncé, marron, on a deux cas de figure. On a, alors ça c'est Paris, mais on l'a évidé pour voir ce qu'il y a en dessous, forcément. Donc on voit qu'il y a des petites villes qui sont en fait en périphérie du réseau urbain des grandes villes. Donc toutes ces petites villes qui sont autour de Paris, et les villes qui sont autour de Lille, ce sont en fait des espaces de périphérie, qu'on pourrait dire des espaces de relégation, où on a des classes moyennes en déclassement, qui ne peuvent pas se loger dans les villes-centres, et qui vont plus loin dans les périphéries, qui sont marquées par une paupérisation de leurs conditions, et ça se traduit directement dans des indicateurs type surpoids. Donc ça, c'est pour ce type d'augmentation. Et puis, vous remarquez que dans le pourtour méditerranéen, pays de la bonne bouffe, eh bien, du bon régime, on se rend compte que là, quelle que soit la grosseur de la ville, on a une augmentation généralisée du surpoids, qui est vraiment propre à cette zone. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire c'est la zone qui a le plus fort développement économique depuis 30 ans, notamment une tertiarisation de son économie, mais en même temps la plus forte précarisation de la population, parce que dans tout l'arrière-pays Montpellier, dans l'Hérault, dans les campagnes, beaucoup de gens croient que le vivre du RMI c'est plus agréable dans les campagnes de l'Hérault, mais ils se trompent. Voilà, donc là j'ai brossé un tableau des disparités spatiales de santé, et j'ai dit que ça renvoyait à une foule de déterminants variés. Et évidemment, pour pouvoir agir pour réduire ces inégalités, il faut comprendre quels sont ces déterminants, comment ils se combinent entre eux, etc. Et puis, il faut décider pour donc les acteurs, les élus notamment, ce qui n'est pas facile. Et là, je voudrais donner un exemple pour illustrer la complexité de la situation dans laquelle se trouve le décideur, et philosophiquement, on pourrait dire, la configuration dans laquelle il se trouve en devant s'appuyer sur tel ou tel principe, équité, égalité, efficacité, comment allouer les ressources, en vertu de quel principe. Donc je vais donner un exemple sur la mortalité évitable liée au système de soins en France. Et pour montrer qu'en fait, la décision, elle n'est jamais technique, mais bien politique. Donc, l'indicateur dont je vous parle, c'est la mortalité évitable liée au système de soins. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que ça. C'est l'OMS qui a mis en place cet indicateur. C'est un ensemble de causes de décès pour lesquelles on considère que le décès aurait pu être évité si le système de soins préventif et curatif avait fonctionné comme il devrait. Donc évidemment, c'est valable dans les pays où il y a une offre de soins. Mais cet indicateur, il est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'il reflète l'accès aux soins. Donc il reflète aussi les faillites de l'accès aux soins. un non-accès aux soins. Par exemple, dans les maladies qui font partie de cette mortalité évitable liée au système de soins, il y a le cancer du col de l'utérus, qui est totalement évitable. Simplement, il faut qu'il soit dépisté, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a 1100 décès par an, à peu près, pour ce cancer, qui ne devrait pas avoir lieu. Et donc, ça renvoie à la faillite de l'accès aux soins. Il n'y a pas eu de frottis. Ou pas au bon moment, en tout cas. Et cet indicateur, il est intéressant aussi parce qu'il porte sur le système de soins. Or, on sait que le système de soins, il suit la hiérarchie urbaine. C'est-à-dire que plus on a une grosse ville, plus on a une densité d'offres de soins, plus on a une diversité d'offres de soins, de spécialisations, de spécialistes, et plus on sait qu'on a une relative proximité spatiale à l'intérieur de la ville. Donc, ça veut dire, si on regarde ce tableau par taille de ville, et si on voit, comme c'est le cas dans ce tableau, que la mortalité évitable liée au système de soins ne varie pas en fonction de la taille de ville, ça veut dire que ce n'est pas l'offre de soins, la disponibilité à elle seule de l'offre de soins qui fait qu'il y a ces taux de mortalité. Donc ça nous questionne sur les facteurs de l'accès aux soins. Il ne suffit pas qu'il y ait une offre pour qu'il y ait accès. Donc l'accès, c'est quoi? C'est certes une disponibilité matérielle, mais c'est l'accessibilité sociale, culturelle, financière, l'acceptabilité des soins, etc. Un tas de dimensions qui entrent dans la rationalité de la population. Et on ne peut pas dire, en tout cas le planificateur ne peut pas dire, oui, s'il y a une offre de soins et que les gens n'y vont pas, eh ben ils ont qu'à y aller. Puisque la population n'a jamais tort, et on ne peut pas d'autorité changer les comportements des gens, c'est à l'offre de soins de s'adapter, de comprendre comment dialoguer, comment se rendre accessible à la population, spécifique ici ou là, à ses besoins, à la manière dont elle se figure les choses, le problème, le cancer du col, ou que sais-je. Après, c'est intéressant de traduire ce tableau en carte. Donc on retrouve notre petite géographie habituelle, maintenant on connaît. Donc la surmortalité, le chapeau chinois connu, et puis la diagonale du vide, voilà, qui présente encore les taux de mortalité évitables liés au système de soins les plus forts. Et puis, quand on ventile encore par taille de ville, ça renforce ce que je viens de dire, c'est qu'on voit bien que c'est l'appartenance régionale qui compte, là encore, et non pas la taille de la ville, puisque on a Lille, une grande ville, qui a un fort taux de mortalité évitable, alors qu'on peut penser qu'il y a une offre de soins tout à fait correcte, et Toulouse, qui est aussi une grande ville, a un taux beaucoup plus faible. Et les villes voisines de Toulouse lui ressemblent, et les villes voisines de Lille lui ressemblent, quelle que soit leur taille. Donc on a bien un effet, toujours appartenance régionale, qui fait que la manière dont les gens recourent aux soins est spécifique ici ou là. Il faut qu'on comprenne pourquoi, pour pouvoir s'adapter. Et donc j'étais partie là, à travers cet exemple pour vous parler du problème du décideur qui doit s'appuyer sur des principes. Donc là, nous, on est dans un principe, encore aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui sait si ça va changer, de solidarité nationale. Donc la sécurité sociale, c'est chacun cotise selon ses moyens, chacun consulte selon ses besoins, librement. Ça, c'est l'idée. C'est même dans le préambule de la Constitution, l'accès aux soins garanti à tous, voilà, égal. C'est l'égalité, le principe. On se rend compte, à travers cet indicateur-là, que l'égalité, c'est faux. L'égalité d'offre d'accès aux soins est fausse. Enfin, n'est pas en place, disons. En vertu du principe d'équité, on pourrait dire, si l'équité, c'est jaloux des ressources au prorata des difficultés, alors on pourrait dire que le Sud pourrait payer pour le Nord, puisque c'est là qu'il y a plus de problèmes. Donc évidemment, ça, au niveau national, on est tous d'accord. Puis quand on est dans les circonscriptions locales, c'est plus difficile déjà. Donc il y a des enjeux politiques, des jeux d'acteurs qui font que c'est pas forcément sur ce principe qu'on va s'appuyer. Et puis, le dernier principe, c'est celui de l'efficience. Donc je vous ai dit que dans la diagonale du vide, ici, on avait des taux les plus forts. Et que versus l'Île-de-France, on a les taux les plus faibles. Or, ces taux, qui sont des pourcentages, Ils sont calculés sur des dénominateurs de population, ici, qui sont très faibles, puisqu'il n'y a personne ici. Enfin, je vous ai dit, c'est la diagonale du vide. Alors que ici, c'est la plus grosse concentration humaine de France. Donc, le dénominateur de population du taux en Ile-de-France, qui est certes plus faible, est beaucoup plus important. Donc ça veut dire qu'en chiffres, en nom, excusez-moi, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'en nombre de décès effectifs, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de cette mortalité évitable en Ile-de-France que ici, dans la diagonale du vide. Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier ? Si on privilégie l'efficience, le principe d'efficience, c'est on va allouer des ressources là où on est susceptible de sauver plus de vies. Donc là, ça pose un problème philosophique de fond, d'éthique même. Alors, est-ce qu'il y a des vies qui valent plus la peine d'être sauvées que d'autres ? Bon, voilà, c'est les questions que le décideur, que déjà l'observation, la recherche peut poser. C'est-à-dire, nous, c'est notre travail d'instruire un débat public, de fournir un peu les questions, voilà, les termes d'un débat, et après la décision, vous comprenez bien là qu'elle n'est absolument pas technique, elle est philosophique, elle est politique, c'est un choix, de toute façon rien n'est parfait. Donc voilà le problème de l'acteur. Évidemment là j'ai pris un exemple à l'échelle de la France, mais au niveau local, loco-local, les mêmes problèmes se posent. Voilà, donc ce tableau des inégalités sociales et territoriales de santé interroge sur le fond les politiques qui ont été menées à différentes échelles, par différents acteurs, dans tous les domaines, puisqu'en fait la santé reflète l'ensemble des domaines de la société, le travail, les loisirs, la scolarisation, la culture, etc., l'aménagement du territoire. Et donc on a besoin d'avoir une approche globale des déterminants de la santé, relatif à ce que je viens de dire, au logement, à la culture, etc. Parce que le soin, alors évidemment relatif à l'offre de soins, mais il faut préciser que le soin n'est responsable que de à peu près de 20% de l'état de santé des populations. Donc en fait c'est peanuts, alors que dans les budgets pour la santé, c'est le soin qui absorbe plus de 80% des fonds publics. Donc il faut quand même réfléchir à ce sur quoi on investit. Et là, j'attire l'attention sur la nouvelle loi hôpital, patient, santé, territoire, où l'ARS, en fait, l'agence régionale de santé qui va en région centraliser tout l'organisation de la santé et du médico-social, là, est prise entre. Elle a des choix à faire, quoi. Entre. Qu'est-ce que je privilégie ? Les aspects de prévention, comment moi qui dois incarner une politique de santé, comment est-ce que je peux légitimer le fait d'agir sur une politique de logement, par exemple ? Ça, c'est un problème culturel, un problème de il faut faire valoir cette idée, et en France, on est très très loin du compte, hein, de ça. On est à fond sur le soin, et je dirais même plus, on est à fond sur l'hôpital. Donc, la transversalité pour une approche globale des déterminants de fond de la santé, on en est loin, mais il y a toute une effervescence de gens qui prennent conscience justement de l'importance au niveau local de cette transversalité des approches. Donc, il faudrait idéalement décrire toutes les combinaisons locales ou même micro-locales dans des pâtés de maison, des différents éléments qui sont supposés jouer un rôle dans la détermination des états de santé. Nous, en géographie, dans notre jargon, on appelle ça les constructions socio-territoriales de santé. Bon, voilà, c'est juste pour exprimer cette multiplicité des déterminants localement. Maintenant, je voudrais donner un exemple de l'intérêt d'observer des contextes. Pas de problème, 5 minutes, ça va très vite, ça. Donc, un exemple sur la ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, sur l'obésité des enfants. Donc, très rapidement, Gennevilliers, c'est une ville d'ouvriers, c'est une ville avec le port autonome de Paris, une ville où il y a des fortes disparités de santé, des niveaux de santé difficiles, une zone très très dense, globalement une offre de soins insuffisante. Donc ça se trouve ici. Et la pauvreté est assez importante. Et surtout, la paupérisation de la population. Puisque c'est une ville en désindustrialisation et en revalorisation, avec des forts taux de chômage, des forts taux d'échecs scolaires, un fort taux d'immigration, etc. Bref, un profil très banlieue rouge, banlieue ouvrière parisienne. Et dans cette, on a fait un travail sur l'obésité des enfants dans les écoles primaires, et toutes les écoles de la ville sont classées en zone d'éducation prioritaire. Donc on peut penser qu'il y a globalement un cumul de facteurs qui sont reconnus comme favorisant le développement de l'obésité. Et d'ailleurs, les services de santé avaient remarqué qu'il y avait de l'obésité. Donc on a recueilli des données par école, donc par secteur scolaire, et on a cartographié après par quartier, pour voir les disparités d'un quartier à l'autre. Et on s'est rendu compte que globalement, il y avait des résultats très supérieurs aux moyennes nationales et régionales d'obésité, et notamment d'obésité massive, et ce, quel que soit le niveau, CP, CE1, etc., et l'âge, et le sexe. On observe que, donc, même à une échelle aussi locale, on a des disparités fortes, puisque des quartiers où on a 14% contre 23% dans d'autres. Donc ça varie dans un rapport presque de 1 à 2, un peu moins. Donc, globalement, la situation est défavorable, mais toute la ville est en ZEP, donc ça veut dire que la ZEP n'est pas toujours synonyme de prévalence les plus fortes. Et d'ailleurs, la zone critique, c'est cette zone-là, les Agnettes, qui n'est pas en ZEP. Quand on croise avec les revenus, la carte des revenus, on se rend compte que les zones où il y a la plus forte obésité totale, c'est pas forcément les zones où il y a la plus forte pauvreté en termes monétaires. On a fait aussi une petite enquête sur la consommation alimentaire, on s'est rendu compte que ça, à elle seule, elle ne pouvait pas expliquer les disparités d'obésité. Donc, il y a quelque chose de plus complexe. Et on a fait un zoom sur le fameux quartier dont je vous parle, qui s'appelle les Agnettes, qui est le quartier du centre de la mairie, le plus vieux, le noyau villageois, on va dire. C'est des grands ensembles, avec une majorité d'ouvriers et d'employés, avec 30% de foyers monoparentaux. C'est là où il y a le moins d'immigrés sur la ville, et c'est là où le taux de chômage a augmenté le plus rapidement dans la ville ces derniers temps. Et c'est là où il y a des très forts taux d'obésité. Eh bien, alors même que ce quartier, il est réputé comme étant un des plus favorisés de la ville, c'est celui qui s'est le plus paupérisé le plus rapidement. C'est celui où on voit qu'il y a une détérioration du climat de vie dans le quartier, de problèmes de violence à l'école, etc. Les résultats scolaires les plus mauvais. Et donc on se demandait pourquoi ce quartier, et on en est simplement là, quand on a fait des hypothèses, en s'appuyant sur les travaux d'un sociologue de l'alimentation, qui dit que le problème, c'est pas tant la pauvreté en soi, que le déclassement et la brutalité du changement, où tout est bouleversé dans les ménages, et qui déstructure en fait la norme, et les repères qu'on a dans l'organisation de l'activité physique, de la prise de repas, etc. Donc maintenant, on va faire un autre travail qui est en cours pour comprendre une monographie, en fait, qu'est-ce qui fait norme localement, comment ça se passe, comment on s'alimente. Voilà, donc en conclusion, juste dire que l'échelle locale est plus à même de permettre la mise en œuvre d'une transversalité, celle dont je parlais, pour appréhender la diversité des déterminants, et que c'est plus facile à mettre en œuvre qu'à un niveau interministériel au niveau national. C'est pour ça que c'est intéressant de développer l'observation locale de la santé, à travers notamment les ateliers santé-ville, qui se développent dans le cadre de la politique de la ville, pour essayer de cibler des actions et comprendre la façon dont les gens se comportent localement. Mais il y a toujours ce problème de disponibilité des données à l'échelle infracommunale, parce qu'il y a des enjeux institutionnels importants. Avoir les données, c'est avoir le pouvoir, et donc on ne veut pas forcément le transmettre. Mais ce n'est pas seulement une question de garder son précaré, c'est aussi une question de méconnaissance de l'intérêt qu'on pourrait avoir à partager ces données pour faire des diagnostics. Et l'outil qui se développe aujourd'hui, c'est le diagnostic partagé, autour duquel, en fait, on met des acteurs tous ensemble autour de la table qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble pour créer un consensus, un point de départ de travail qui va faire qu'on va coproduire des résultats d'analyse et se mettre d'accord, en fait, sur des programmes d'action. Parce que, justement, l'idée, c'est qu'on ne peut pas transformer le territoire sans qu'il y ait une coordination entre les différents acteurs, les différents champs de la vie, et sans les habitants, évidemment. Mais bon, ça, la démocratie sanitaire, pour l'instant, reste souvent un peu un souhait, mais c'est très difficile à mettre en place. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ose dire que j'étais épaté par le talent, hein, j'ose le mot, avec lequel vous faites parler des cartes. Hein, on vous écouterait d'ailleurs des heures. Je me suis permis de vous signaler qu'il fallait vous arrêter pour pouvoir recueillir les inévitables questions de la salle. Merci pour ce talent de lecture des cartes. Et merci aussi de nous avoir donc conforté dans l'idée que c'est très intéressant d'approcher les enjeux de santé par le prisme du territorial, parce qu'on voit des choses auxquelles qu'on ne verrait pas sinon, et de nous avoir, hein, me semble-t-il, Jam nous le dira tout à l'heure, et d'autres aussi. Le comble serait de terminer la soirée à l'hôpital, hein, après une telle soirée. Après, voilà.
Je vais protester.
Excellent. Bonne soirée, monsieur. C'est bon ? Très bien. Merci, monsieur. Au revoir. Eh bien, c'était pas prévu. Et merci de nous avoir, Jam nous le dira, mais d'autres aussi, ouvert des pistes quant à la possibilité pour le local de peser, d'apporter des solutions justement qui prennent en compte les différentes composantes du problème, parce qu'on a bien vu que la morbidité et la mortalité faisaient fi des frontières administratives, des départements et des régions. Alors j'aurais deux questions, je me limite à une question, je garde l'autre dans la poche pour privilégier celle de la salle, mais une question qui concerne les statistiques que vous avez utilisées. Alors, c'est une interrogation dont je vous ai déjà fait part, hein, donc je vous prends pas en traître, hein, mais c'est une question, me semble-t-il, importante. La plupart des statistiques remontent aux années 99. Pourquoi des statistiques pas plus récentes? C'est justement en raison des problèmes que vous évoquiez à la toute fin de votre exposé sur la difficulté de recueillir les données.
La plupart des cartes que j'ai montrées là sont issues du travail d'Atlas qui a été fait, le premier volume, l'Atlas de la mortalité, puis le deuxième, l'Atlas des états de santé. Et faut savoir qu'en fait, toutes ces données ne sont pas, elles sont négociées en fait pour les obtenir. Ce sont parfois des cohortes qui ont existé à un moment donné, mais qui n'existent pas tout le temps. Donc, on les exploite sur les années qu'elles ont, et puis après, on n'a plus de données. Et puis, il y a aussi le fait que ces traitements, c'est énormément de travail en fait. Et alors on a quand même sur les espérances de vie, sur la mortalité, on a des données encore beaucoup plus actuelles, hein, de 2008 jusqu'à 2008, mais on les a pas encore, on les a part de vers nous, mais on les a pas encore complètement moulinées, complètement en main. Donc c'est celle-ci qu'on maîtrise plus en fait.
Mais au moins, vous êtes livré à une sorte d'exercice de style qui était destiné à nous sensibiliser à l'importance d'une approche territoriale.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Parce que ça serait valable encore aujourd'hui, je pense.
Voilà, tout à fait. En question de... Voilà.
Il faut démarrer. Bravo, merci pour votre exposé. C'était vraiment très intéressant, très fouillé. Mais je me suis posé une question en regardant vos statistiques. Vous avez beaucoup fait tourner votre réflexion autour du surpoids et de l'obésité. Est-ce que vous avez fait un travail identique sur les méfaits de l'alcool, du tabac et de la drogue? Est-ce que c'est possible?
Oui. En fait, dans l'atlas des états de santé, donc des gens vivants, on a utilisé des dizaines de bases de données et on a des choses sur... Alors, sur la mortalité, oui, liée à l'alcoolisme.
C'est celui-ci.
Voilà, c'est ça. Ça, il y a des données, parfaitement. Sur toutes les pathologies, les comportements à risque, addictions. Mais là, je ne les ai pas présentées parce qu'on ne pouvait pas, mais des données existent parfaitement. Et dans cet atlas-là, il y a tout un travail sur les jeunes, sur l'alcool et sur le cannabis. Et on se rend compte qu'il y a des structurations spatiales très caractéristiques, mais comme c'est issu d'enquêtes déclaratives, on se demande si dans le Nord, ils sont plus menteurs que dans le Sud, en fait. On ne peut pas vraiment savoir si c'est représentatif d'une réalité, parce que beaucoup de gens dans le Nord pourraient vous dire « mais je bois de la bière, mais ce n'est pas de l'alcool ». Donc ça renvoie comme ça à des représentations qui font que... Il y a des biais et les données sont interprétables, mais limitées.
Alors effectivement, le sommaire annonce un chapitre sur les maladies infectieuses, les cancers, le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Il est extrêmement complet. Hein.
Oui, il y a toutes les pathologies.
Monsieur.
Bonsoir. Pour compléter la cartographie qu'il y avait tout à l'heure, là, dans les années 70, on pouvait faire un rapprochement de la carte avec tous les jeunes qui buvaient à l'armée. Autrement dit, les Bretons, les Ch'tis, c'était des gens qui faisaient la fête, mais qu'est-ce qu'ils buvaient ?
Ouais.
C'est un témoignage, hein. Monsieur.
Moi, je voudrais une explication sur les 20% que vous énoncez sur l'offre de soins. Je ne sais pas si c'est l'offre de soins ou les prestations de soins,
oui,
qui ne sont constitutives,
le curatif,
voilà, qui n'entrent que pour 20% dans les indicateurs de santé. Alors j'aimerais savoir quels sont les autres qui ont été répertoriés et
alors, oui,
voir si, alors on évoque beaucoup en France donc une répartition très inégale de la démographie médicale. À quelle hauteur ce facteur-là influe-t-il sur le développement de la santé ?
Alors déjà, cette quantification, c'est une approximation. C'est très dur à quantifier. C'est un géographe qui s'appelle Vigneron qui a tenté cette évaluation quand il travaillait à la DATAR.
Emmanuel. Donc,
comment ?
Emmanuel Vigneron.
Emmanuel Vigneron. Et le reste, donc c'est 20% des niveaux de santé seraient imputables aux prestations de soins, quelles qu'elles soient, en général. Mais tout le reste provient de c'est diffus. C'est l'éducation, le niveau de scolarisation, le travail, l'activité, le type de travail, puisqu'il y a quand même beaucoup de maladies qui sont liées aux conditions de travail. Voilà, de la même façon qu'au XIXe siècle, l'amélioration de la santé, elle est venue de la mise en place des égouts, elle n'est pas venue de la découverte de la vaccination, même si ça compte, bien sûr. Mais les plus grandes avancées dans les niveaux de santé d'une population, ils viennent de l'hygiène en général, ils viennent de l'éducation, plus que de l'invention d'une molécule. C'était ça l'idée, quoi.
Monsieur au fond, voilà, c'est ça, levez le... Hop. Pendant qu'on vous donne le micro, je pose peut-être... Non, ben voilà, vous avez le micro, allez-y. Priorité.
C'était pour faire un complément d'information à ce qui venait d'être dit sur la... Je suis géographe aussi, je suis directeur d'Observatoire de la Santé Poitou-Charentes. Ah,
bienvenue.
Voilà, donc c'était pour dire à tous ceux que ça intéressait que, effectivement, le travail de cartographie à l'échelle des cantons, notamment, avait été réalisé assez récemment et que ces cartes des distributions géographiques des inégalités de santé, alors souvent par le biais de la mortalité, encore une fois, existent, sont téléchargeables sur le site de l'ORS. Poitou-Charentes, et que effectivement on observe des distributions géographiques qui sont intéressantes, souvent avec une opposition espace rural, espace urbain, avec le périurbain qui se détache bien, et que selon les pathologies on a des inégalités territoriales assez marquées, y compris dans la région. voilà, c'était pour information, donc ces éléments sont disponibles. Et que à l'échelle de la France, il y a eu un ouvrage également qui vient d'être publié par la Fédération des ORS avec une distribution aussi spatiale de la mortalité pour tous les cantons de la France. Et on retrouve effectivement, même si ça s'atténue, ces inégalités entre le T et le U. voilà, donc c'est des éléments, si ça vous intéresse, au niveau régional, qui peuvent compléter ces informations.
Est-ce que c'est, et du coup, question à tous les deux, est-ce que c'est fondé sur une méthodologie similaire, de sorte que vous pourriez les reprendre à votre compte pour actualiser le travail que vous nous avez présenté?
Je pense que c'est une méthodologie similaire.
Oui, les taux standardisés sur la structure parage sont des choses qui sont...
Oui. Mais en fait, dans le laboratoire, il y a Stéphane Rican qui travaille plus spécifiquement avec le CEPIDC, qui est à l'INSERM. Le CEPIDC, c'est le service qui s'occupe des causes de mort, de l'analyse des causes de mortalité en France. Donc c'est un service public dont le travail consiste à enregistrer les causes de décès. Donc il y a toutes les fiches qui arrivent là et ils numérisent ces données et c'est là qu'on fait l'analyse des causes de mortalité. Donc c'est de cet endroit que sortent les informations sur les causes de décès qui après sont re-envoyées dans les régions, dans les ORS, etc. Et donc on travaille encore complètement sur ces données de mortalité réactualisées tout le temps.
Alors, si j'ai bien compris, on prend la question de madame, c'est vous qui les traitez et qui les...
C'est Stéphane Rican, est vraiment le spécialiste de ça, qui travaille... Le directeur, en fait, c'est Éric Jougla, qui est co-auteur...
Des atlas.
Voilà. Hein. D'accord. Et lui, c'est lui qui tient la mortalité en France.
Et... C'est une manière de dire.
Lui, c'est son job tous les jours.
Voilà. Monsieur, madame, pardon, je crois. Ah non, je pensais que madame voulait intervenir. Alors, monsieur, ici. Pour l'enregistrement et la synthèse, et inscrire vos propos dans le marbre.
Ma question, y a-t-il des travaux comparables chez nos voisins?
Oui.
Allemagne, Italie, Angleterre, pour prendre des pays comparables.
Oui, surtout en Angleterre. Il y a un organisme de statistique qui s'appelle Eurostat qui s'occupe de centraliser des informations sur la mortalité, notamment en Europe. Donc, mais ils n'ont pas les échelles aussi fines, puisque là, c'est les échelles auxquelles on travaille, elles sont propres à la France aussi. C'est les fameuses zones d'emploi, c'est des constructions qui sont faites par l'INSEE en France. Mais au niveau européen, on a des données quand même par département, par province, comme ils appellent, dans pratiquement tous les pays.
Ouais. Et trouve-t-on donc des éléments de comparaison de...
Oui, on trouve des éléments de comparaison. C'est pour ça que...
Oui, est-ce qu'il y a des résultats, excusez-moi, semblables?
Oui, mais ce que je disais, c'était que la France était particulièrement marquée par des écarts. Mais ce qu'on voit un petit peu dans l'Atlas mondial, il y a quelques cartes au niveau Europe, sur certains indicateurs, on voit que la France, elle est coupée en plusieurs morceaux, quand on voit au niveau de l'Europe, et que son nord se rattache, en fait, la frontière, là encore, frontière internationale, mais avec la Belgique, sur le plan des indicateurs de santé, n'est pas une frontière. Et on a vraiment, enfin ça dépend des indicateurs, mais on a vraiment une correspondance entre le sud Belgique et le nord de la France, de la même façon qu'entre les Pyrénées et l'Espagne, on a aussi plus une homogénéité, et pour certains indicateurs aussi, côté Italie. Donc il y a encore une fois ces histoires d'espace culturel transfrontalier qui renvoient des manières de vivre, de manger, de boire, de se comporter.
Ça rend très difficile parce que l'Alsace, qui est classée comme une région riche globalement, se retrouve ici dans une région avec des régions beaucoup, beaucoup plus pauvres, ce qui est très trompeur finalement. Donc les décideurs ont des problèmes.
Ouais, en même temps, l'Alsace, c'est vrai que c'est une région qui est étonnante hein, parce que c'est un peu comme Rennes. La situation s'améliore en Alsace, la mortalité des jeunes diminue beaucoup, alors qu'ils ont des taux de chômage quand même assez importants. Et Et pareil, toute la vallée de la Moselle, parce qu'il y a des liens avec le Luxembourg, s'améliore nettement. Mais ça fait vraiment une sorte de couloir d'amélioration, et puis le reste, plus en dégradation.
Oh, quelque chose me dit qu'après l'Alsace, on va évoquer la Bretagne, n'est-ce pas, une bonne fois ?
Je vais essayer. Non, mais c'était simplement... Merci beaucoup pour votre conférence qui était vraiment passionnante. Oui, en effet, quand j'ai vu, étant bretonne et très chauvine, quand j'ai vu la carte foncée, je me suis dit, heureusement que je suis venue dans le Poitou, parce que là, je suis en danger de mort. Donc, voilà, je vais avoir quelques explications là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait seulement que l'alcool. Bon, remarquez, si on regarde le Nord et la Bretagne, en fait, la carte parle. Ce qui m'a assez... ce qui est évident, mais qui est choquant quand même, c'est aussi quand vous parlez des familles monoparentales, hein, par rapport à l'accès à la santé, donc aussi l'accès aux soins pour les femmes en général, parce qu'on se rend compte que dans les zones rurales, il n'y a pas peut-être de prophylaxie qui est faite pour ce qui concerne toutes les maladies, cancer du sein, cancer de l'utérus, etc. Je sais que maintenant, il y a un gros travail qui est fait par des associations pour aller dans les campagnes, mais ayant entendu des histoires quand j'étais jeune, enfin, effarantes sur le fait qu'il y a une proportion de femmes qui ne va jamais chez le médecin. Il y a aussi sans doute la répartition des médecins généralistes maintenant. Hein, on dit qu'on manque de médecins généralistes. Comment ça, ça joue quand même aussi par rapport à l'étude de santé, même si vous dites que c'est pas flagrant. Et puis j'ai entendu dire aussi, j'ai lu dans un article qu'il y avait plus de médecins spécialistes dans la région parisienne. Alors peut-être que, aussi qu'il y a un manque d'accès aux soins par le fait que le spécialiste est cher. Ce sont des petites choses comme ça. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait une augmentation de la mortalité infantile. À une conférence hier soir, on avait une soirée sur le handicap à l'espace Mendès France, et une des personnes qui est intervenue a dit que c'est un signe de mauvaise santé, si vous voulez, globale, ou du moins une société va mal, c'est quand la mortalité infantile augmente. Alors, est-ce que vous avez
au niveau global de la France,
voilà,
pas au courant.
J'ai entendu dire ça.
Bon, ça, je ne savais pas, mais donc ça serait intéressant de... sur l'accès, le rapport entre la démographie médicale et l'accès aux soins, je pense qu'on ne mesure pas encore bien cette histoire de pénurie qui est quand même très comment dire, quand on s'intéresse aux inégalités de santé, c'est plus facile de travailler sur l'offre de soins, parce que c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui est plus immédiat, plus facile à comprendre que les comportements. On a l'impression qu'on peut plus agir là-dessus, donc on se focalise là-dessus, mais je pense que pour l'instant, on ne mesure pas véritablement l'impact de cette pénurie, différentiel selon les lieux, hein, très différentiel. Et puis, pour ce qui est du prix des consultations, nous, on a vu dans nos travaux, dans nos monographies infracommunales en Ile-de-France, des choses quand même assez incroyables, où une ville... de la banlieue rouge qui est donc marquée par d'importantes difficultés, une ville pas riche qui a des ZEP, des zones franches urbaines, va essayer de se mobiliser sur des questions de santé, va donc dans sa zone franche urbaine, c'est-à-dire dire à des médecins de venir s'installer, donc c'est-à-dire qu'ils ne payent pas d'impôts, hein, zone franche urbaine, donc ils s'installent gratis, et puis leur cabinet, il est pris en charge, enfin voilà, tout ça est organisé par la mairie. Et ils sont au cœur d'une zone urbaine sensible. Et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ça leur donne une adresse à cet endroit-là, mais ils ne sont pas là du tout le temps. Donc en temps de médecine disponible de manière effective, ce n'est pas, du plein temps. Et puis, ils font des dépassements d'honoraires. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un endroit où ils drainent leur clientèle qui vient d'ailleurs, et cette offre qui profite... d'aménités organisées, en fait, ne profite pas véritablement aux gens autour qui en auraient besoin, alors qu'à la base, c'était ça l'idée. Donc, il y a un peu ce genre de difficulté avec toutes ces politiques incitatives qui posent vraiment les questions de fond sur la liberté d'installation qui est soi-disant en débat, mais qui, en fait, n'est pas en débat parce que c'est très, très... Voilà, c'est très difficile de s'attaquer à ça. Mais sur la disponibilité de l'offre de soins et le fait que des gens, même qui habitent à côté d'une offre de soins, aillent jamais chez le médecin, c'est quelque chose de tout à fait plausible. Mais alors, tout à fait. Enfin, moi, dans mes travaux, moi, je ne suis pas spécialiste sur des approches quantitatives d'analyse spatiale comme ça. Moi, je suis spécialisée plus sur des approches micro-locales, type un peu anthropologique. Et j'ai travaillé à La Réunion sur des quartiers où on voit nettement des gens qui, de toute manière, ne vont pas chez le médecin, quelle que soit la situation, sauf si vraiment il n'y a plus d'autres moyens. Donc, il faut comprendre la rationalité dans laquelle ils se trouvent.
Monsieur, et ensuite la question de Jam avant le mot de conclusion.
Vous nous avez cité donc les déterminants de santé. Donc si je comprends en quoi la culture, l'éducation, effectivement, en peuvent en être, dans la mesure où l'accès aux soins, enfin les soins du moins, ne représentent que 20% de l'état de santé d'une population, j'ai plus de difficultés à comprendre en quoi les transports sont un facteur déterminant de santé. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ils le sont?
Bah, l'idée, bah, c'est peut-être que ça rejoint un petit peu la conférence que vous avez eue sur les inégalités face à la mobilité.
Parfaitement, bien vu.
Mais en fonction des possibilités de déplacement qui sont offertes par des aménagements, mais aussi en fonction de la faculté à se déplacer des personnes qui varient selon leur niveau socioculturel, leur ouverture sociale, etc., la mobilité va avoir un impact sur le fait d'aller chercher plus loin certains soins. Par exemple, à Nanterre, c'est une ville extrêmement morcelée, avec des autoroutes, c'est très cloisonné. Pour aller chez un, quand on est dans un certain quartier enclavé, et qu'il faut aller chez un gynécologue, il n'y en a pas partout, dans un autre quartier, il n'est pas dit que le fait d'avoir à prendre le bus ou alors d'avoir à marcher en passant sous une espèce de pont d'autoroute horrible qui vous déprime, rien que l'idée qu'il va falloir passer là, avec des flaques d'eau et des urines en dessous, enfin, toute cette configuration fait que ça vous paraît plus loin, que les choses vous paraissent plus loin. Enfin voilà, donc c'est ça la politique de transport, de mobilité, on pourrait dire, dans un sens large. C'est plus ça.
Ce que vous dites, et Jam Renaud ensuite, ça vaut aussi pour le rapport au travail, à l'emploi. C'est-à-dire on va trouver, il y a des personnes en difficulté par rapport à leur mobilité et qui vont trouver des stages ou des emplois plus conformes à proximité de leur lieu de vie plutôt qu'en conformité avec leur projet professionnel parce que justement, ils n'ont pas forcément ces capacités de mobilité. Hein.
Donc, oui.
Une petite question avant d'en venir tout à l'heure à la conclusion, mais ça fait deux fois que j'entends parler aujourd'hui de la démocratie sanitaire. J'aimerais quelques indications. Qu'est-ce que c'est que la démocratie sanitaire? Ce matin, ils ne m'ont pas convaincu par la réponse.
Allez-y.
En fait, ce qu'on appelle démocratie sanitaire, ça n'existe pas pour l'instant. En tout cas, c'est une chose, c'est l'idée qu'on puisse associer les habitants, les usagers, comme des acteurs professionnels de la prévention, du soin, des élus, etc., à une réflexion sur les politiques de santé, quoi. C'est ça. Et donc on appelle ça démocratie sanitaire, mais en fait, le gros problème, c'est que dans toutes les actions qui sont menées, à chaque fois on entend les gens, les acteurs disent que oui, on a fait des réunions, c'était intéressant, on a bien travaillé, mais bon, il n'y avait pas d'habitants. Donc il y a ce problème de, on décrète qu'on veut faire de la démocratie sanitaire, mais la vitalité de l'implication des gens, est-ce qu'elle est vraiment là sur les questions de santé? Bon, je sais pas, c'est pas sûr.
Comme les autres personnes, merci d'abord pour les données que vous nous avez transmises. Je trouvais entre autres intéressant que vous insistiez sur le distinguo entre l'offre de soins et l'accès aux soins. L'offre de soins, ça peut être effectivement plutôt public ou privé, et l'accès aux soins, c'est un peu la volonté ou la marge de manœuvre individuelle. Et je trouve que ça peut être un peu pervers parce que, bon, je prends un exemple complètement fictif qui n'existe pas, hein, mais un gouvernement peut dire, regardez, il y a une offre de soins importante dans le pays. Et par exemple, il décide de mettre les 100 médecins du département tous dans le même lieu, à Poitiers par exemple. Du coup, ceux qui habitent à 50 km de Poitiers vont moins venir voir le médecin. Mmh. Et du coup, ces 100 médecins vont être un peu moins occupés. Et il peut constater que, ben, comme ils sont moins occupés, ils peuvent en réduire de 20%, puisqu'il y a trop de médecins. Donc ça peut être un peu pervers, et puis de dire, ben, nous, on a mis les moyens à disposition,
si les gens ne veulent pas se soigner, c'est leur problème. Et ça renvoie la responsabilité aux individus, qui est une stratégie, je trouve, assez classique actuellement dans pas mal de domaines. Je travaille plus dans le domaine de l'environnement, mais dans le domaine de l'environnement, on peut dire que les responsables, pour les uns, c'est les entreprises, pour les autres, c'est les élus qui décident ou qui ne décident pas de faire des lois. Et puis pour beaucoup, c'est, bah, c'est à chacun, un citoyen, de faire. Et ce n'est pas à l'un ou à l'autre, c'est à travailler ensemble. Il n'y a pas... Bon. Et j'aurais voulu, donc ça c'était la remarque un petit peu générale, et j'aurais voulu, même s'il est bientôt 20h, que vous reprécisiez un petit peu la corrélation avec des hypothèses d'interprétation entre santé, prise de poids, perte de travail qui fait que le changement de situation professionnelle et surtout économique peut-être, fait que là, il y a plus d'impact sur la santé. Parce que quand je regarde, hier je regardais des produits dans un discount alimentaire, une grande surface, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'additifs alimentaires qui, selon les sources d'infos que j'ai, sont plutôt néfastes à la santé. Donc je me dis, les gens qui vont plutôt manger là, acheter là, sont peut-être plus exposés à des petits détraquages.
Je m'attendais à ce que vous réagissiez sur le bémol que Zoé a apporté sur les effets environnementaux. Hein, connaissant votre sensibilité aux enjeux, aux questions d'environnement, mais non, vous êtes intervenu sur un autre sujet. Très bien.
Bah, déjà, sur votre première remarque, je suis entièrement d'accord. C'est... on est vraiment dans une période charnière, enfin depuis plusieurs années maintenant, mais en France où on change de paradigme et en fait on s'en réfère à la responsabilité individuelle sur la santé. Et c'est pour ça que c'est pervers aussi tout ce développement de la prévention en disant, voilà, on vous a dit une fois, deux fois, trois fois, cent fois qu'il ne fallait pas manger de chips, qu'il ne fallait pas fumer. Maintenant, vous avez un cancer du poumon, eh bien, vous allez payer tout seul. On vous avait prévenu. Et c'est comme si on déconnectait. En fait, on culpabilise les personnes de leur comportement et on déconnecte les comportements des gens des structures sociales qui font qu'ils ont tel et tel comportement. Même s'il y a toujours il y a une dimension individuelle, une dimension biographie personnelle, caractère propre à la personne, mais n'empêche qu'on est aussi façonné par des grandes tendances dans la société. Et la gestion du stress par la cigarette, par exemple, on ne peut pas uniquement l'imputer à la personne. Et alors que on n'a pas encore parlé du système de la sécurité sociale, enfin, là on s'en est pris aux retraites, mais bientôt, l'année prochaine, préparez-vous. C'est la sécurité sociale, et ce qui se profile, c'est ça l'idée. L'idée, c'est, bon, il faut faire des économies, on sait maintenant, la science nous a montré que pour réduire une obésité, il fallait mettre un anneau gastrique, faire tel et tel régime, etc. Vous n'avez pas voulu le faire, eh bien, vous allez cotiser vous-même à une assurance privée pour vous soigner. C'est pas la collectivité qui va vous soigner. De la même façon qu'il y avait eu ces histoires de sièges d'aéroport, de sièges d'avion, où si t'étais gros, tu payais double, parce que c'est ta faute quand même si t'es gros. Bon, enfin tout ça questionne ce qui fait la norme aussi des comportements. Donc bref, enfin je suis assez d'accord avec vous sur la remarque d'ensemble que vous avez fait, et puis sur le rapport hypothétique qui a été mis en évidence par le sociologue Poulain. Sur la déstructuration de la famille et le déclassement social et le surpoids et puis d'autres maladies en fait, hein, pas que le surpoids. L'idée c'est que il y a notamment dans les familles monoparentales, il y a une fragilité qui s'instaure, mais qui n'est pas que financière, qui est aussi une représentation de soi par rapport au déclassement, une négligence de soi, qui est lié aussi à cette image qu'on a de soi, de la place qu'on a dans le spectre social, qui a un impact sur la façon dont on éduque les enfants, le temps qu'on peut y consacrer. On n'est pas là, les enfants sont là, alors on laisse des petits plats tout faits, qui sont hyper salés ou qui sont voilà, d'une mauvaise qualité. Comme on a moins d'argent, on va acheter des produits moins chers, discount. D'ailleurs, si on vit dans un quartier... Effectivement, bah, globalement, la population est assez pauvre. On a des produits à disposition qui sont peut-être d'une moins bonne qualité. Tout ça est un enchaînement de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu trop à votre question.
Oui, Anne, voilà.
Donc oui, c'est intéressant que vous parliez de l'individualisme. Dire l'individualisme, le fait d'avoir de l'information... On dit que quand on a une information, notre approche est individualisée. Donc là, on n'a pas besoin de prise en charge globale de l'État. Et est-ce que vous avez étudié les comportements vis-à-vis de la médecine par Internet? Parce que aussi, on dira, vous avez fait votre diagnostic par Internet, etc. Enfin là, il y a toute une approche qui est tout à fait différente de la santé. Parce qu'on se soigne soi-même, on se soigne soi-disant soi-même. Alors là, il y a aussi un champ total, ça va complètement changer, parce qu'on va nous dire, bon, le diagnostic, vous l'avez fait vous-même, après tout, des gens achètent leurs médicaments sur Internet, etc. Donc là, il y a aussi un changement de mentalité, qui peut être assez dangereux aussi par rapport à ce que vous dites, on est des individus, donc comme vous êtes des individus dans une société, vous êtes en fait responsable de votre trajet, c'est ce que vous dites, c'est l'argument qu'on peut donner, donc on vous prend pas en charge. Mais avec Internet, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que ça va prendre des proportions énormes.
Ouais, on n'a pas du tout travaillé là-dessus sur l'impact, mais il y a des anthropologues qui travaillent là-dessus. Et sur la modification du rapport.
Après un défi, un vaste chantier tout aussi intéressant. Voilà, je rappelle brièvement, sous votre contrôle, Zoé, donc les deux volumes de l'Atlas de la santé en France qui étaient parus successivement en 2000 et 2006, ce qui témoigne.
Le 1, je crois que c'est 98, non ?
Ah, j'avais noté 2000, alors vous êtes mieux placé. 98.
Bah là, j'ai rentré.
Voilà, alors, écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Alors, en direct, 2000.
2000.
C'est peut-être
J'étais parti, c'était 90.
Voilà. C'est une réédition.
Ouais.
Voilà.
Ouais, bon, voilà. Vous merci. Vous
avez participé aussi Agnès, décidément, Zoé, voilà. Zoé Vaillant, aux dynamiques sanitaires des villes françaises, publiée dans cette collection de la DATAR, dont on disait quelques mots tout à l'heure. Vous avez également participé à ce numéro, l'Atlas de la mortalité par cancer en France métropolitaine. Mmh. Autant de volumes, malheureusement,
Ce volume-là sur la mortalité par cancer, c'est une approche spatio-temporelle depuis les années 60. Jusqu'à aujourd'hui, c'est disponible, c'est téléchargeable gratuitement sur le site de l'Institut National du Cancer. Par contre, les gros atlas, les gros volumes, ils sont épuisés, donc on peut les trouver dans des bibliothèques.
Le comble, espérance de vie assez médiocre pour ces ouvrages.
C'est vrai. Mais ils sont très chers aussi, alors c'est ça c'est un tirage limité, parce que comme c'est de la couleur, ça coûte assez cher.
Juste un mot, je tenais à dire qu'avant d'animer cette conférence, j'avais quelques inquiétudes. Je craignais qu'on ne reparte le moral dans les chaussettes. Paradoxalement, ça a été sans doute la conférence la plus plaisante. Alors on est en vert clair, voilà.
Ah ouais, c'est ça. Pour ça, vous êtes... Bon, ça va, chez les autres, c'est pire, quoi.
C'est le verre administratif, nous dirait Pastoureau, comme le rappelle Anne Bonnefoy. Et parce que vous nous confortez dans l'idée qu'on peut aussi agir au niveau infralocal, c'est-à-dire au niveau, et là je passe le relais à Renaud, au niveau d'une communauté d'agglomération, par exemple.
Oui, merci Sylvain. Merci beaucoup pour votre rapport, parce que vous allez comprendre pourquoi il est même très intéressé, ce remerciement, parce que ça fait plusieurs reprises que le... président de la communauté d'agglomération et un certain nombre d'élus. Mais Michel Berthier n'est pas là ce soir, je crois qu'il ne pouvait pas venir. Mais nous disent que ça serait bien que le Conseil de développement travaille sur ces questions. Sauf que les questions de santé, on est habitué à travailler sur des questions assez complexes, mais les notions de santé, c'est vrai que déjà, quand il faut distinguer le soin et la santé, qu'en plus 20% c'est le soin et le reste c'est la santé, donc on voit bien que quels acteurs on va solliciter, comment on va s'y prendre, parce que quand on fait un appel aux acteurs, très souvent on se rend compte qu'on a des malades parfois, mais aussi beaucoup d'associations de malades, mais qui n'ont qu'une appréhension des choses. Donc vraiment je trouve que c'était très très intéressant d'avoir d'abord de savoir tout ce qu'il existe en matière d'observation. Et j'ai pas retenu le nom, mais j'ai retenu l'organisme que nous appelait l'Observatoire. Oui, non, mais pas de souci. Donc, ce qui veut dire que quand même, on devrait avoir une capacité à trouver des éléments. Maintenant, c'est quelle peut être l'originalité, et vous allez comprendre pourquoi j'ai posé la question sur la démocratie sanitaire, c'est que nous, on a une approche d'usage en tant que conseil. On est des gens d'horizons très différents, des habitants, hein, certes des acteurs, mais quand même d'origines assez diverses et de fonctions très, encore plus diverses. Donc c'est comment est-ce qu'on peut avoir un apport qui soit intéressant ? Parce que, bon, on voit bien quand même qu'on a une bonne connaissance sur la manière dont les choses évoluent, mais c'est comment essayer d'améliorer, hein, comment essayer cette fameuse santé des habitants d'un territoire. Et c'est vrai que là-dessus, je me rends compte qu'on a besoin. Alors, on a quelques petites idées. Hein. Déjà, lancer un appel au peuple, à tous ceux qui seraient intéressés pour travailler cette question. Donc déjà, il suffit de s'inscrire auprès de Virginie. Hein. Vous avez les coordonnées du conseil, donc vous pouvez toujours solliciter. Déjà, ça nous intéresse. La deuxième chose, c'est peut-être voir un peu ce qui se fait dans d'autres, mais nous allons dîner ensemble, donc on va essayer de retrouver d'autres secteurs où ils auraient pu déjà travailler, puis vous nous avez donné quelques indications. Donc vraiment, merci beaucoup. Sachez que c'est un sujet qu'on va traiter hein, à un moment ou à un autre, peut-être par le biais d'une rencontre sur une journée, enfin, peut-être qu'il y aurait des choses de cet ordre-là hein, qui pourraient être intéressantes. Des journées d'études, un peu ce qu'organise Yves Jean aussi, peut-être qu'à plusieurs, peut-être que plutôt que de le faire que conseil de développement, qu'on essaie de faire ça à plusieurs acteurs. Parce que c'est évident que c'est un sujet qu'il faut lancer et surtout sur lesquels il faut prendre un peu de temps. Hein, ouais. Parce que sinon, je ne vois pas très bien, vu tous les aspects que vous nous avez soulevés, ça va être très difficile. Donc merci à tous de votre présence. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir renforcer nos rangs pour travailler sur cette question de la santé. Voilà. Et merci Zoé Vaillant.
Merci.